Tout n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, surtout pas les sujets de ce soir. Bienvenue dans le troisième CMA. Bonjour et bienvenue dans CMA, l'émission qui remonte aux origines des choses pour mieux les comprendre et les apprécier. Allez, voici le sommaire. Alors, on commence par la fin pour découvrir le début, c'est le principe du manga et de sa chronique de ce soir. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Alors, on parle de quoi ce soir?
Ce soir, je vais vous dire d'où viennent les mangas, et vous allez sans doute apprendre pourquoi les personnages de ces bandes dessinées japonaises ont de si grands yeux.
Ah, il y a une raison particulière. Ah ah,
suspense.
On va prendre des choses. On arrive à la mi-saison où le temps est imprévisible, d'où la problématique de comment s'habiller. Heureusement, elle a la solution. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Alors on parle de quoi ce soir?
On va parler du trench coat.
Du trench coat, c'est mode ça?
Ah bah c'est super mode et c'est le manteau idéal pour la mi-saison.
Ouais.
Ouais.
Bon, on verra ça.
Toi-même tu sais.
Ouais. Et d'une, il est fan de cinéma. Et de deux, il revient sur d'une. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
Film mythique ce soir alors?
Oui, je vais vous parler d'un film d'une, mais qui n'est jamais sorti au cinéma.
Ah,
oui.
D'accord. Bon, on ne va pas le voir alors du coup. Pour sa chronique, c'est le secret total. Elle nous fera la surprise de son thème. Bonsoir Sonia.
Bonsoir à tous.
Donc, on ne sait pas.
Eh bien, ce soir, c'est surprise. C'est-à-dire que ça tourne autour de la musique, bien sûr. Hein, mais effectivement, saurez-vous retrouver voilà, cette chanson qui, à travers le temps, traverse voilà, chaque univers, chaque décennie et pour arriver jusqu'à aujourd'hui.
Ok, bon. Et enfin, on finira avec une touche de guimauve. Avec toi, Florian.
Oui, et ben ce soir, je vais vous parler d'un anniversaire. Parce que cette année, ce sont les 50 ans de cette célèbre confiserie proposée pour les grands et les petits, qui est donc les Chamallows.
Mmh.
Donc restez bien à l'écoute pour suivre avec moi l'incroyable histoire de ce bonbon tout doux.
Mmh. Et bien sûr, nos rendez-vous habituels avec le Graal qui répond à vos questions et Franck Coty qui traque les plagiats musicaux. Vous nous écoutez sur les 101.5 FM de Radio G à Angers ou partout dans le monde sur fréquenceZig.com et Spotify. Bienvenue dans C'était mieux après. Alors pour débuter, voici l'expression du jour. Tomber dans les pommes. D'après vous, ça vient d'où? Tomber dans les pommes. Une histoire
c'est une histoire de quelqu'un qui devait ramasser des pommes.
Et qui est tombé dedans.
Qui a fait un malaise et poum, il s'est assommé avec une pomme, peut-être.
Peut-être, Newton, tombé Newton, dans les pommes. Ouais. Non. Pas d'idée du tout.
Pas d'idée, non.
Pas d'idée. En fait, c'est très compliqué à trouver parce que tomber dans les pommes, ça vient d'une déformation linguistique. En fait, c'est une expression du Moyen-Âge qui est tomber dans les pâmes. P, A, accent circonflexe, M, E, S. Et en vieux français, se pâmer, c'est perdre connaissance. Et donc, par déformation, c'est devenu tomber dans les pommes. Mais ça n'a rien à voir du tout avec le fruit. Eh oui. Allez, avant de retrouver Mathias et l'origine des mangas, une reprise musicale. Nous sommes en été 1942 et Lucienne de Lille a un amour d'été qui lui inspire cette chanson.
Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
Vous n'entendez peut-être pas, mais il y a Florian qui chante en même temps. On l'entend chanter.
Mais parce que Patrick Bruel l'a reprise.
Eh bien oui, justement, voilà, effectivement, l'amant de Saint-Jean a été repris en quelle année?
Elle
est fan de Patrick Bruel.
Non, mais nous, on l'a repris bien avant, dans les banquets, les bals.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est vrai.
Patrick Bruel, c'est du réchauffé, excusez-moi.
Bon, je m'en vais.
Ah oui, les fans de Patrick Bruel. Eh bien, ça donnait ça.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean. Oh musette, mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être au parleur. Chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait crisée, sans volonté, sous ses baisers.
Voilà, c'était Patrick Bruel reprenant près de 70 ans plus tard Les Amants de Saint-Jean de Lucienne de Lille. Alors c'était mieux avant ou après?
Avant quand même.
Ah, tu préfères Lucienne de Lille?
Oui, quand même.
Oh. Non, Caro, elle disait quand même plus, plus moderne.
Un petit Patrick Bruel quand même, ouais.
Un petit Patrick.
Non, je suis pas fan, hein, mais...
Ok, bon.
Bon, les reprises, c'est jamais très intéressant.
Oh, oh ça un dépend. Petit ça dépend.
Moi, j'aime pas trop.
Ah, bah les avis sont partagés, je sais pas. Sonia au milieu.
Bah écoute, effectivement, c'est l'esprit guinguette. Après, ils reprennent. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils reprennent. Ils font. C'est tous du réchauffé. On réactualise des choses qui existent déjà. Mais bon, ça a le mérite de se faire. Mais voilà.
C'est facile, quoi.
Ouais, c'est facile.
Ok, bon. Vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et nous allons parler 9e art ce soir avec les mangas de Mathias.
Je suis tout intimidé d'un coup, tout le monde me regarde.
Oui, c'est toi.
Il n'y a pas de petit jingle.
Ah non, non, ah pas oui de jingle pour les gens ce soir. Parce qu'il y a trop de monde à chaque fois, il faudrait mettre plein de jingles.
Bon, alors du coup, le manga, c'est une bande dessinée. Bon, jusque-là,
ça va
bien.
C'est cohérent. On te suit, ouais, c'est bon.
Japonaise.
Pas que.
Pas que.
Mais en termes de BD, ce 9e art a grandi différemment au Japon par rapport au reste du monde. Alors qu'au 20e siècle, en Europe, on a Tintin et qu'aux US, ils ont Superman. Mm-hmm. Deux genres finalement très proches en prestation, au Japon, la BD a sa case à part, et ce, dès le 8e siècle.
Ah oui, ça date pas d'hier, effectivement.
Ces prémismes de la BD japonaise se présentent en rouleau. On les appelle des emakimono.
Emakimono.
Je connaissais pas. Ah. Du coup, quand j'ai vu... J'ai regardé des vidéos, du coup, ouais. Quand j'ai vu les vidéos, effectivement, oui, ça me semblait familier, mais je connaissais pas le mot.
Emakimono. On peut placer un K au Scrabble, c'est bien.
Oui, mais c'est pas accepté ce mot au Scrabble.
Ah bon ?
Et mon kimono. Et ma kimono.
Et mon kimono, ouais. Qui c'est quand même... Et mon kimono, il est où ?
Je réfléchissais sérieusement en plus. Non,
mais... Ça, c'est plutôt des blagues de Bruno, mais bravo. Bravo, Oli, bravo.
Avec un ancêtre aussi lointain, on comprend mieux l'ancrage du manga au Japon, véritable phénomène de société.
Ouais.
Et c'est en 1902 qu'apparaît ce qui peut être considéré comme un manga. D'ailleurs, c'est l'auteur lui-même qui introduira cette dénomination pour ce nouveau style de dessin et de texte racontant des histoires. Alors, à l'époque, ça reste des dessins assez simples avec des décors proches d'une scène de théâtre statique. C'est pas super glamour, surtout qu'arrive la guerre et le manga se transforme alors en propagande. C'est pas très...
Ah bah oui, bah les Américains avaient fait pareil aussi avec les super-héros.
C'était pas très cool.
Ouais.
Enfin, quand ça arrivait à être publié, parce qu'il y avait souvent des pénuries de papier. Et, bon, c'était,
ils étaient au bout du rouleau.
Ils étaient au bout du rouleau. C'est soir et je ne Moi, je dis, allez, open bar, on y va, c'est parti.
On se croirait en confinement, c'est fou.
Ouais, c'est ça.
Donc vas-y, excuse-moi.
Non, mais,
non mais ça, c'est Sonia, hein, c'est pas moi.
Moi, je peux vous laisser sinon. Je vais rentrer et me coucher. Bon, en parlant de guerre, les Japonais voient les Américains et leur culture arrive dans le pays.
Ouais.
Voir Hulk et Mickey, ça a dû être un choc.
Ah bah ça, c'est sûr.
Choc qui a inspiré un auteur que l'on considère aujourd'hui comme le père du manga, Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka.
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 Tezuka. Je pense que ça se dit comme ça, hein. Je ne suis pas sûr. En 1952, en parallèle de ses études de médecine, il devient le papa d'Astro,
le petit robot.
Le petit robot,
oui.
Oui.
Ça,
ça date.
Ben, ça a été célèbre grâce à sa série animée en fait, qu'on a connue nous, sur nos écrans.
D'accord.
Et c'est à lui qu'on doit, par exemple, les gros yeux énormes des personnages de bande dessinée.
Ah oui, la question. Bah, oui. Tu disais ça tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi c'est gros?
Et d'après vous, d'où pourquoi ça peut venir ces gros yeux?
Je sais pas.
Bah, des poissons rouges. Les Japonais, là, ils ont des gros yeux.
Ah oui, c'est vrai, les combattants.
C'est pas bête.
Les combattants. Ouais, ou alors, peut-être, les Japonais, ils nous voient avec des yeux énormes parce qu'eux, ils ont des yeux plissés. Peut-être.
Nos gros yeux, c'est souvent plus expressif, quoi. C'est pour montrer plus le.
Ouais. Je pense que l'inspiration vient de ça, mais.
Montrer qu'ils sont tristes, montrer qu'ils sont joyeux, c'est peut-être plus. Je sais pas.
C'est pour qu'on voit les étoiles dans leurs yeux.
Oh, c'est beau. Mais c'est pas ça.
Bien essayé.
En fait, il était fan de Bambi. Il adorait Bambi, il l'a vu un nombre incalculable de fois.
Et alors, il y a des rapports
Et bah, Bambi a des yeux énormes, des grands yeux énormes, des grands cils. Et effectivement, je pense que le côté très expressif a dû jouer. Parce que c'est vrai que sur des grands yeux, c'est quand même.
Donc
plus...
c'est le cinéma américain, le dessin animé américain.
Et oui.
Qui l'a inspiré. Et c'est pour ça que les Japonais font des. Alors que les Américains ne font pas ça, et c'est les Japonais qui font ça, d'accord. Ah ouais.
Excellent.
Voilà.
C'est Bambi. Et bah, maintenant, je regarderai les mangas différemment. À chaque fois, c'est des yeux de fan.
C'est ça.
Super.
Alors que les mangas étaient généralement pour les enfants, en 1957, une version plus noire et surtout plus adulte voit le jour. Et ça cartonne. C'est alors que le manga explose dans sa diversité. On y côtoie des robots, mais aussi des adolescents qui se battent dans Dragon Ball Z, par exemple.
Mm-hmm.
Ou encore des pirates dans l'espace avec Albator.
Ah bah oui, Albator. Alors... C'est du manga, Albator.
Albator.
Hey, tu mets une pièce dans le nourrin, c'est bon, hein, c'est parti, on y va. On chante, hein.
Aujourd'hui, les fans de manga dévorent les Naruto et les One Piece. Mais d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire le mot manga?
Ah, parce que ça a une signification particulière.
C'est une signification particulière.
C'est un mot japonais, en fait, qui veut dire
livre qu'on lit à l'envers.
Livre, oui. Ouais.
Il y a de ça.
Il y a dessin dedans? Des manga, histoire, peut-être? Ou... Qu'est-ce que ça pourrait être? Non.
Alors, manga, ça veut dire, en fait, image divertissante.
D'accord.
C'est tout bête.
Il y a deux mots en fait. Nous, on le fait en un mot, mais il y a deux. Alors, je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a deux signes.
D'accord. Deux signes et histoire
et
divertissante.
Signes, c'est, voilà, image divertissante.
Deux kanji.
Deux kanji, c'est ça.
Ah, c'est ça.
Ouais.
C'est vrai.
Et ce que disait Caro tout à l'heure, c'est vrai. C'est lié à l'envers, c'est ça que tu disais, Caro. Les mangas.
Oui, les mangas. Oui, commence par la fin.
Oui.
C'est pas perturbant un petit peu
Au début, mais au bout de quelques pages, on n'y fait plus attention.
Mais est-ce que c'est à l'envers et dedans, on lit traditionnellement de gauche à droite comme
Non, de droite à gauche.
Mais de bas en haut
Ça, par contre, ça demande une signification un peu plus...
Mais ça, c'est de bas en haut ou de haut en bas?
Non, c'est de haut en bas.
Ah, c'est quand même de haut en bas. Donc, à l'envers, de droite à gauche et de haut en bas. Ah, ça doit être quand même perturbant.
Je ne comprenais rien.
on se spoil. J'ai la fin, je ne comprends pas.
Et est-ce que vous savez quels sont les deux pays qui sont le plus fans de manga, qui en lisent le plus?
Ah, le Japon.
Oui, je sais.
Qui en lisent le plus.
Ouais.
Le Japon.
Les deux pays. Ouais. Et la France.
Ah
bon?
Oui, on est très consommateur de manga.
Pas la Chine,
Non.
La France.
Le Japon et la France.
Ah vache.
C'est fou, hein?
Ah bah ouais. Mmh. Ouais, c'est clair.
Et dernière petite anecdote, comment on appelle quelqu'un qui dessine des mangas?
Un mangatier.
un mangateux.
Bah, c'est un nom japonais.
Un dessinateur. Je sais pas.
Manga. Un mangaka.
Mangaka. Bon, voilà. Bah, on a pris deux mots ce soir, hein, le monkey mono et mangaka. En conversation demain à la machine à café.
Makimono.
Pardon, makimono. Autant
heureusement qu'il y en a qui suivent.
Oui, bah oui, c'est vrai.
Maki. Oui, j'aime bien les maki.
Bon, écoute, merci Mathias en tout cas.
Merci à vous.
Dans la suite de l'émission, du glamour en trench avec Caroline qui nous habille pour l'automne. On parlera du phénomène cinéma Dune. On jouera avec Sonia et on se goinfrera de guimauve avec Florian. Tout cela, ce sera après le premier Graal du jour. Alors, Graal, c'est G répond aux auditeurs ligériens. Autrement dit, on répond à vos questions, des plus saugrenues aux plus originales. Le tout en une minute. Aujourd'hui, ça pue. Il est question de cacostomie.
Question de Franck Demazé. Qu'est-ce que la cacostomie ?
Oui, alors Franck, quand tu me parles, tu respectes les distances. Non, c'est pas pour la Covid, mais pour la laine. Le mot cacostomie vient du grec ancien kakos, qui veut dire mauvais, et stoma, qui veut dire bouche. Bref, Franck, si on te dit que tu as de la cacostomie, c'est que tu refoules du goulot. Tu sens de la bouche, quoi. Et je sais, c'est pas très agréable à entendre, mais si on te le dit pas, tu vas pas comprendre pourquoi les gens s'éloignent de toi quand tu parles. Alors bien sûr, il y a le masque, mais le jour où tu voudras embrasser ton ou ta bien-aimée, pas sûr qu'on apprécie ton parfum de rat mort. Voici quelques solutions, en plus de te laver les dents et la langue régulièrement. Bois du jus de citron, mâche du persil et fais une cure de charbon végétal. Me dis pas merci, bouche fermée, ça ira. Eh ben oui, le charbon, ça évite la remontée de gaz, en fait. Donc, c'est pour ça que manger du charbon, c'est bon. Pas du charbon végétal qui est bien nettoyé, quand même. Mangez pas tout ce qui est dans la cheminée. Hein. C'est pas...
Après un barbecue, ça peut être pas mal.
Voilà, donc c'est le Graal. Vous pouvez poser vos questions depuis le site radio-g.fr, rubrique contact. Et bien sûr, vous pouvez retrouver le Graal en vidéo sur l'Instagram et le Facebook Question Graal. Dans un instant, on parlera de Trench, de Dune. Et on retrouvera Sonia pour sa surprise musicale. Et justement, parlant de musique, eh bien, découvrons une reprise étonnante faite par un chanteur angevin. Alors, la chanson originale, ça donne ça.
Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont.
T'as acheté le disque, Caro ? C'est bon, tu l'as
obligé.
Et puis, ouais. Tu le chantes tout le temps, forcément. Ta fille. Bah, oui, forcément. Ouais. Bon, elle a combien ? 40 ans maintenant, quand même. Il faudrait arrêter hein, de chanter ça, quand même. Ça va lui prendre la tête. Alors, cette comptine est donc reprise par un chanteur angevin qui s'appelle Tidiaz. Et ça donne ça.
Tu fais le con, tu me prends pour une marionnette. Tu fais le con, on va te faire ta fête. Oh là là.
Moi, je trouve ça marrant, quand même, d'avoir repris ça et de chanter ça. Donc, c'est Tidiaz, on l'aime bien. Et puis, il est angevin, donc forcément, on l'aime bien. Voilà. Allez, vous êtes toujours dans CMA sur Radio G101.5 FM à Angers et partout dans le monde sur fréquenzik.com et Spotify. Alors, l'heure est grave. Hein, on se tient à carreau maintenant, attention.
Oh.
Et on écoute notre styliste pour savoir comment s'habiller.
Et oui, et surtout toi, mon petit Bruno, du coup.
Allez, ah, pour savoir comment je m'habille.
Allez, Mime. Allez, on commence comme ça. Oui, eh bien, en fait, je vais vous parler du trench coat ce soir. Vous voyez à peu près tout ce que c'est.
Pas du tout.
Le trench coat. Alors déjà, le trench coat, ça signifie à la base manteau détranché.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Et la version courte, en fait, on la connaît tous au final, surtout si vous avez écouté Tendance à me plaire de novembre 2020.
Bien sûr, évidemment.
Voilà.
Oui, je me disais, il me semblait qu'on en avait déjà parlé.
Thomas Burberry, je vous avais fait la version courte, Burberry.
T'es en train de nous dire que t'es en train de recycler tes vieilles chroniques.
Eh bien non, justement, j'ai rebossé un peu profondément pendant des semaines et des semaines. Okay. Et donc, la version courte, c'est la suivante, c'est Thomas Burberry, Première Guerre mondiale, des manteaux. Basta. Mais la vraie histoire, en fait, elle est beaucoup plus riche et intéressante que ça. Donc, je vais vous en parler, quoi.
Oui, parle-nous-en.
Alors, en réalité, le trench coat est le descendant des manteaux imperméables créés par un chimiste et inventeur écossais, Charles McIntosh.
Ah, bah oui.
Et Thomas Hancock, lui, c'est un Britannique, tout ça au début des années 1820. Le premier manteau est alors appelé le Mac...
Comme l'ordinateur.
Bah oui, Macintosh. Voilà. Ils sont. Ouais, bref. Il est en coton caoutchouté et il est destiné alors aux gentlemen qui passaient leur journée à faire de l'équitation, de la pêche, de la chasse, des activités militaires, des activités en extérieur. Donc, grâce aux progrès technologiques, le caoutchouc est devenu moins moite et plus imperméable.
Du poète.
En 1853, c'est John Emery qui conçoit un vêtement de pluie sous le nom de son entreprise. Attention,
ouais.
Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Aquascotum.
On n'est pas loin de la toile Emery. Donc la toile Emery, c'est pas super bien pour s'habiller.
Voilà.
Et scrotum, c'est pas terrible non plus pour s'habiller.
Alors,
hein.
Aqua pour l'eau, bien sûr, ouais. Et scrotum qui voulait dire bouclier. Donc au final, Thomas Burberry. Lui, qui était juste un jeune marchand, il a emboîté le pas de tous ces messieurs et il a créé son entreprise en 1856, qui est devenue la grosse marque de luxe british qu'on connaît tous aujourd'hui. Et en fait, il s'est inspiré de toutes ces technologies en créant, et il a créé, lui, sa gabardine. Alors lui, il a juste changé en fait un petit prototype. Il a fait que chaque fibre de coton et de laine était imperméabilisée plutôt que le textile fini. Et c'est la petite subtilité qui va faire que ça va cartonner, en fait. C'est le détail qui va tout changer, car le tissu devient ultra, ultra respirant. Ça fait un carton, et ça fait un carton surtout auprès des explorateurs, des aviateurs et de la bourgeoisie qui explore le monde de l'époque. Donc au final, à quoi est-ce que Tom et Burberry s'octroient l'invention du trench, mais en réalité, ils l'ont juste popularisé.
Alors le trench, c'est plus le tissu ou plus la coupe alors ?
Alors à la base, c'est une technologie de tissu.
De tissu, d'accord. Ouais.
Ensuite, il va y avoir la coupe. Alors à la base, un trench, qu'est-ce que c'est ? Bien, le trench, il est kaki évidemment pour le camouflage. Il descend au-dessus du genou avec une ceinture en anneau en D pour accrocher des accessoires. La cape dans le dos pour faciliter l'écoulement des poches profondes. Des poches profondes,
ouais.
Oui, juste les poches. Des pattes de serrage, des boutons au niveau du col pour protéger son porteur de gaz toxique et des épaulettes pour indiquer son grade. Voilà. Et alors, bien sûr, le petit truc que ne dit pas l'histoire, c'est que ce n'est pas tous les soldats qui portaient ce trench, en fait. C'est un peu un mythe, ça. Tout le monde n'était pas du tout logé à la même enseigne. Le trench coat était réservé, bien sûr, pour des gradés. Ouais. C'était surtout une marque de distinction et de classe sociale, même au début, dans d'accord. Les tranchées. Voilà. Donc après, évidemment, c'est un manteau qui a été repris pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais là où il a fait un boom et il est devenu culte, c'est en 1940, où on l'a vu dans tous les films de Humphrey Bogart, Casablanca, Audrey Hepburn, Diamant sur canapé. Et du coup, l'image a changé. Elle s'est associée, le trench est associé à l'image du journaliste aventurier, du gangster, du détective ou de la femme fatale séductrice. Et là, ça a fait un carton, en fait. Depuis, c'est devenu un incontournable et bien sûr, c'est devenu la pièce phare de Burberry.
Donc pour homme ou pour femme, du coup ?
Pour les deux.
Pour les deux.
Oui.
D'accord, c'est la exactement. Même coupe. C'est en fait les.
Ce sera une coupe un peu plus cintrée pour les femmes, mais ouais. En fait, il a été retravaillé au fil des années, mais la base était vraiment celle des soldats.
Et on met quoi en dessous alors ? Est-ce que
rien. Rien.
Mais non, mais faut porter quoi pour être chic en dessous alors, parce que c'est.
Ah bah alors pour les femmes, ben évidemment une petite robe noire, mais ça va avec tout le trench en fait. C'est très chic, ça structure bien une silhouette.
Mais un t-shirt, ça le fait pas sous un
bah
trench.
Si, un petit t-shirt ou un jean avec d'accord. Des escarpins pour une femme et pour un homme, ben je sais pas, Olivier, tu me conseillerais quoi ? Des mocassins ?
Ben voilà, très bien.
Un petit cargo, avec un petit
mocassin
voilà.
Avec des petits glands.
Un mocassin à glands, oui, voilà. Exactement. Ouais.
Je crois que je suis sur une autre planète que vous, là, du coup.
Non, mais tu peux attends. Mettre ça avec beaucoup de couleurs. Maintenant, le trench, il existe en tout. Il est en kaki, il est en sable, il est en noir.
Si je viens à la radio en mocassin à glands, je pense que je.
T'auras tout mon respect.
Ah bon ?
Oui.
Alors, c'est très stylé.
Je t'appellerai Dieu pendant deux semaines.
Ah ben, je croyais que c'était ringard, mais donc d'accord.
Ah non, non, c'est toujours chic en fait.
D'accord.
Il y a des petits intemporels comme ça, le trench, la base d'une garde-robe.
Non, Sonia, le mocassin.
Surtout la mi-saison.
Mais j'allais dire, ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire que si je te vois arriver avec ça, Bruno, moi, je pense que je te rionnais.
C'est ça, voilà. Ça va pas à tout le monde, quand même.
Avec les chaussettes
c'est hautes. Compliqué.
Les chaussettes. Ah oui, les chaussettes. Le mocassin avec des grosses chaussettes.
Non, à l'italienne, pieds nus.
Bon, après, il y en a des chics, c'est vrai, là, il nous en montre, effectivement, il y en a des chics.
Il est compliqué, celui-là.
Ouais, des mocassins.
Bah oui, il est compliqué, oui.
Il y a des matières un peu plus souples, etc. Qui sont plus portables.
D'accord.
Mais c'est le manteau de la mi-saison, puisque là, on va avoir les temps un petit peu plus vieux qui arrivent, etc. Ouais. Le trench.
Le trench.
Voilà. Bon. Parfait.
Et les couleurs, c'est toujours un peu marron, toujours ça.
Beige, ouais. Un classique, mais en noir si vous préférez, noir, sable et plutôt marron foncé pour cette
voilà.
Saison.
Voilà, on n'en a pas des fluos, des trucs comme ça,
non,
ça,
on
ça
évite
se fait
quand
pas.
Même.
On évite.
Non, non, c'est compliqué.
Après. Merci Caroline.
De rien.
Alors préparez-vous, dans quelques minutes, vous verrez que l'épice est partout. C'est pas un jeu de mots, hein, vous verrez. Mais avant, un peu de sensualité. Est-ce que vous vous rappelez de ce titre ?
J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en me sort lentement, dirigés sensualité.
Alors, qui chantait ça ?
Axel Red.
Axel Red. La couleur des cheveux ?
Red.
Rouge. Rousse, rouge, ouais, c'est ça, Red. En quelle année ?
93.
Ouais.
Oh la vache.
Bravo, 93. Mais dingue ça.
J'étais pas né.
Bon alors, il y a eu des reprises. Il y a eu des reprises, évidemment, beaucoup de reprises. Et je vous en propose une. Alors, c'est la reprise de Axel Tony, donc c'est un garçon, et de Sharifa Luna.
Sharifa Luna.
Oh là là, j'ai peur.
En 2013, ça soit 20 ans plus tard quand même après. Hein. Voici ce que ça donne.
Jamais je n'aurais pensé après quelque temps que j'aurais tant besoin de lui. Jamais si je me sens si envoûtée. Ma maman me dit ralenti, désir ou amour, tu
la passion s'affaiblit.
Non, non, non.
Pas toujours apparemment.
C'était Axel Tony et Sheriff Aluna qui reprenaient en 2013 le titre d'Axel Red de 93. Donc, alors, c'était mieux avant, c'était mieux après ?
C'était mieux avant. Avant.
C'était mieux avant, ouais,
avant. Ah là, par contre, c'est avant tout le monde. Sonia avant, Olivier avant aussi.
Avant.
Bon, d'accord. Bah, écoutez, désolé pour vous. Vous êtes toujours dans CMA et on revient ensemble sur l'histoire des choses qui nous entourent. Et pour la prochaine chronique, on va aller du livre au cinéma. C'est ça, Olivier ?
Oui, je parlais de Dune.
Oui.
Ah oui.
Alors
Patrick.
Bah oui, je sais pas, on va le réveiller.
Désolé.
Je crois qu'il s'est ensablé.
Ouais.
Joli.
Oui, alors Dune, bah, c'est sorti le 15 septembre dernier. Mmh. J'ai un flash à vous j'ai un flash à vous donner, c'est la première fois que Bruno sort avant la fin du film.
Ah, oh, c'est pas vrai.
Bah si.
Mais il y a Timothée.
Mais il sort au générique.
Ah, au générique, il est plus Timothée.
Il sort au générique jusqu'à la fin, et là, il est quasiment, dès le début du générique, il est parti, il a pas aimé. Bon, c'est comme ça, c'est son droit.
Voilà, c'est mon droit, je n'ai pas aimé.
C'était son flash. Alors Dune, à l'origine, ça remonte à 1965, c'est un roman américain de science-fiction de Frank Herbert. Et c'est aussi le roman de science-fiction le plus vendu au monde. C'est Le Seigneur des Anneaux des années 60. Alors, il y a eu le film là, récent de Denis Villeneuve, mais est-ce que vous connaissez d'autres
moi
films
aussi,
qui s'appellent
Dune? Moi, David Lynch, en 84.
David Lynch, oui. Alors, c'est un film, celui de David Lynch, qui a marqué une génération entière. C'est considéré comme un film culte par beaucoup de gens nés avant l'an 2000. On n'est pas beaucoup dans la salle, mais bon.
C'est ça. C'est
les quarantenaires, cinquantenaires adorent Dune, c'est le film de David Lynch. Mais encore avant David Lynch, il y a un film Dune qui a failli se faire, mais qui ne s'est jamais fait. Et ça remonte à 1973 avec un producteur français qui s'appelle Michel Sédoux.
Bah, c'est pour ça.
Et qui avait demandé à un cinéaste chilien, Alejandro Jodorowsky, d'adapter le roman Dune au cinéma. Alors, ce Chilien, Jodorowsky, il avait fait deux films qui avaient marqué les esprits. C'était un peu ésotérique et tout. Et voilà, donc c'était un peu on est dans les années 70, hein, c'est un peu hippie à l'époque, quoi. Et donc, voilà, donc Jodorowsky adore l'idée d'adapter ce roman et il décide d'en faire, sans lire le roman, il décide, ok, moi ça me dit bien, j'ai un copain qui a lu le bouquin, il me dit que c'est bien, je vais adapter Dune à ma façon. Et il décide d'en faire une expérience spirituelle. En fait, son objectif, c'est
déjà ça fait peur,
de transposer sur écran l'effet que peut faire, attention, le LSD sur l'esprit. Donc, c'est un film un peu psychédélique.
Donc, il n'a pas lu le bouquin. Et déjà, il part sur cette idée-là sans avoir lu le bouquin.
Oui, il part sur l'idée, il connaît un peu la trame, et puis il dit « je vais faire le film à ma façon et tout, je vais faire ça, je vais faire ça », enfin sans respecter vraiment la trame du film.
Ça sent pas bon.
Alors par contre, il a quand même pas mal d'argent, et il a à sa disposition plusieurs millions de dollars, et puis donc il va composer son casting, un casting incroyable. Du coup, il engage son fils pour jouer le principal héros du film, qui sera joué dans 40 ans plus tard par Timothée Chalamet. Il y a beaucoup de réseaux, hein, ce réalisateur. Donc, il engage Orson Welles en lui promettant que tous les jours sera préparé pour lui un repas par un chef parisien qu'il apprécie. Voilà, c'est comme ça qu'il embauche Orson Welles. Mmh. Il embauche aussi David Carradine. C'est le Bill de Kill Bill, mais c'est aussi l'interprète de Kung Fu, une série très connue des années 70. Il embauche Mick Jagger. Il embauche Salvador Dali en lui promettant de le payer 20 000 dollars par minute du film. Sauf que ce qu'il lui dit pas, c'est qu'il n'aura que 5-6 minutes de film dans le film. Et tous ces gens-là acceptent. Et puis même Amanda Lear devait jouer dans le film, voilà, qui devait jouer une princesse.
À quel âge?
Et il s'entoure aussi d'une équipe technique. Alors, c'est là que c'est bien, c'est qu'il s'entoure d'une équipe technique extraordinaire. En dessinateur, on aura Mebius, un français.
Ah, Mebius, oui.
Chris Foss aussi. En plasticien, H.R. Giger, qui va créer les décors de Dune. Et puis en musique, il demande au groupe Pink Floyd de faire la musique.
Voilà. Sur le papier, c'est quand même...
Et sur le papier, c'est assez extraordinaire. Ouais. Alors l'idée, c'est que Mebius va dessiner tout le film. Ça fait à peu près 3000 dessins en storyboard. Ça va être une véritable œuvre d'art. Apparemment, il n'y a que 2 exemplaires à l'heure actuelle qui sont dans le monde. C'est recherché comme le Graal par tous les aficionados, quoi. Et le problème, c'est que voilà, tous ces gens vont créer un film pendant 2 ans, vont essayer de monter le film, mais Hollywood va décliner l'offre. En fait, le budget va être dépassé de 5 millions de dollars. Jodorowsky propose aussi de faire un film de plus de 12 heures sans revenir à moins, enfin sans concéder quoi que ce soit sur le film.
Il n'y avait pas Netflix. Hein,
et donc au final, Hollywood va rejeter en ayant très peur de monter ce film, qui aurait dû être le film de science-fiction de tous les temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toute cette équipe a travaillé pendant 2 ans sur le film, et puis le fameux storyboard que je vous ai parlé, il est passé dans pas mal de studios à Hollywood, et en fait, ce storyboard va être à l'origine de plusieurs films dans l'avenir. Ah. Plus tard, l'aspect visuel de Star Wars, qui va sortir 3-4 ans après, ressemble étrangement au style du film, au niveau des vaisseaux spatiaux, justement. Mebius va s'inspirer de ce qu'il a fait pour Jodorowsky, pour après dessiner l'esthétique du film Tron, Willow, Abyss, et voir beaucoup plus tard le cinquième élément. Et notamment, il y avait 2 personnes qui s'entendaient très bien, c'était H.R. Giger et Dan O'Bannon, qui faisait des effets spéciaux et aussi des plasticiens. Ensemble, ils vont retravailler ensemble, ils vont reprendre les essais qu'ils avaient faits, et c'est eux qui vont à l'origine de la création d'Alien, qui va sortir 2-3 ans après. Mm-hmm. Voilà, tout ce petit groupe-là, c'est lié d'amitié, et c'est vraiment l'équipe qui va amorcer le début vraiment de la SF à Hollywood dans les années fin des années 70, début des années 80.
Donc tout n'était pas perdu en tout fait. Ça, pas, ça a tout servi n'était pas perdu. Même.
Alors toute cette histoire là, vous le voyez dans un film qui s'appelle, un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui est sorti il y a 4-5 ans. Alors, moi je l'ai acheté le DVD, je l'ai pas encore vu, mais Bruno, soit tu l'as vu.
Ouais. Très intéressant.
C'est très très intéressant. Alors c'est un film un peu, donc ce film ne va jamais voir le jour, et puis ça, en fait il y a une malédiction dans Dune, parce que 10 ans après. C'est pareil, il y a un Italien, Dino De Laurentiis, un producteur italien, qui persuade David Lynch aussi de tourner une nouvelle version de Dune. David Lynch, il avait fait Elephant Man, et puis il avait failli tourner Le Retour du Jedi, un autre Star Wars. Et donc, il va être engagé pour tourner nouveau Dune. Donc, David Lynch, il engage lui aussi un casting international. Max von Sydow, le chanteur Sting, qui a un rôle un peu spécial dans le film. Voilà, donc David Lynch, il va s'inspirer un peu de Fritz Lang, de Metropolis, et puis de la Renaissance italienne, pour faire son film, qui est un peu complètement barré, hein, au niveau costume, c'est complètement barré. Sauf que là aussi, David Lynch avait l'idée de faire un film de plus de 5 heures. Il faut savoir que le Dune, c'est 3-4 tomes, c'est 3-4 volumes, c'est quasiment intransposable au cinéma. Il faut vraiment faire un film très très long, quoi.
Et donc, lui aussi n'a pas dérogé à la règle. Il a dit, je ferai 5 heures, sinon rien. Mais sauf que donc, le studio décide d'avoir le final cut en disant, non, on va couper un bon morceau du film et on va faire un film de 2 heures et demie. Et donc, David Lynch va dire, OK, mais moi, je ne veux plus entendre parler du film. Donc, c'est pas son bébé. Il a renié complètement le film. Oh, oui. Même quand le film passera plus tard à la télévision, voilà, il demandera à changer le nom du réalisateur. Ce ne sera plus du tout son nom et tout. Il a complètement dénigré ce film, qui reste quand même un chef-d'œuvre à l'heure actuelle. Enfin, un chef-d'œuvre. C'est spécial, mais bon, je comprends qu'à l'époque, ça devait être révolutionnaire. Voilà. Voilà, je pense que c'était plus révolutionnaire à l'époque que maintenant, quoi, oui. Que le film qui est sorti en septembre dernier. Quoi. Voilà, donc le Dune, c'est vraiment un film, voilà, qui est un film un peu maudit. Enfin, c'est une histoire un peu...
Oui,
voilà,
un peu karma pourri.
Voilà,
ouais.
Là. Et alors, le dernier film, eh ben, écoutez, moi, j'ai bien aimé. Après, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas objectif.
Alors, il est en deux parties. Hein. C'est, ah. Donc, il y a la première partie, Dune, puis Dune. Qui va sans doute être la
pour les
partie,
fans de Zendaya, il n'y allait pas, parce qu'on la voit que 3 minutes à l'écran. Hein.
Qui ?
Zendaya.
Ah bon ?
Ah oui, non, on ne la voit pas du tout.
Ah bon ? Parce qu'elle fait toutes les promos à côté de...
Ah bah oui,
de
mais on la voit que dans ses rêves, on la voit à la fin, mais c'est pas...
Dans la deuxième partie, sans doute.
C'est un peu l'arnaque, quoi. Mais bon, Timothée est très beau, Caroline.
Ah, c'est ça le principe.
Ah bah si vous allez au cinéma que pour voir Timothée, bon, allez, merci Olivier. Tout à l'heure dans CMA, on va se gaver de guimauve. Mais avant, jouons avec Sonia et ses musiques. Alors, ma Soso,
tant de mystères. Il n'y a plus mon super jingle.
Non, il n'y a plus Soso Show, évidemment. Alors.
Alors, donc, bien oui, comme je vous disais, hein, ce soir, je vous ai concocté un petit jeu. Et donc, ça va commencer par des petits indices musicaux. Et je vous propose de me dire, hein, de trouver quel est le point commun qui relie ou qui unit ces différents artistes. Alors, je vous laisse écouter.
Suivez des yeux l'étoile du berger.
Je vais mourir sur scène devant les projecteurs.
Can't read my, can't read my, no we can't read a mother of the face.
Il y a un point commun.
Ils ont
entre
un point commun, tous ces chanteurs. Ils sont très hétéroclites, vous l'aurez compris. Pas clair. Des mêmes générations. Et pourtant.
La tenue vestimentaire.
Et pourtant. Alors, je vais vous aider. Plusieurs propositions à vous faire. Selon vous, ces 6 artistes, ils ont chanté une chanson caritative, humanitaire, hein, pour une bonne cause, type Les Enfoirés, ou bien USF for Africa, Chanteurs sans frontières, éventuellement.
Non, c'est non, pas la même époque quand ils sont.
Selon
très,
vous, est-ce qu'ils ont le même chirurgien esthétique?
Il y avait des jeunes quand même qu'on n'en pas encore.
Il y a Cher, non?
Oui, il y avait Cher.
Ils
non,
ont peut-être le même chirurgien.
Peut-être.
Ouais. Peut-être. On garde de côté. Ils se sont fait arnaquer et ont été dépouillés et ruinés par leur manager.
Ah, bah ça, ça aurait...
oui.
Ah, ça, c'est possible. C'est
possible.
Ça, c'est possible.
Ah, oui,
Sheila,
oui, je crois.
Sheila,
ouais. Ou bien sinon, éventuellement aussi, ils ont changé de sexe.
Non.
Ah, bah non. Non. À part Sheila, non.
Et sinon, est-ce que...
Oh, ça va ! C'est bon !
Éventuellement, est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient fait une reprise du même tube ?
Du même tube ? Bah non, il y avait David Guetta, il y avait tout ça... Non.
Non, c'est l'idée du manager là, qui les a
alors,
engagés.
Alors, je vais vous donner un autre petit indice qui peut-être peut vous guider pour trouver la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on entend là?
Bah, des bang, du bang, du bing, du boom.
Ah, c'est bang, bang. Je sais, ils ont, oui, c'est bang, bang. Ils ont repris bang, bang.
Oui, mais qu'ils sont forts, bravo.
Tous ceux-là?
Exactement. Eh bien.
Ah bon?
Il est question effectivement de la chanson Bang Bang, bravo, hein, et de ses nombreuses reprises. Mais qui est donc à l'origine de cette chanson? Quel artiste l'a révélée au monde? Eh bien, réponse tout de suite. Est-ce que vous reconnaissez la voix avec tous les indices que je vous ai donnés?
Ça va, Michel?
Ouais.
Alors ça, c'est la toute première version. Ça date de 1966, puisque c'est là que tout commence. Bang Bang, My Baby Shot Me Down est une chanson de la chanteuse Cher. Elle est sortie en 45 tours en tant que deuxième single de son deuxième album. Et elle était écrite à l'époque par son mari, Sonny. Hein, puisqu'on connaît tous le couple Sonny and Cher. Ils étaient à l'époque très célèbres. Ils ont marqué quand même les années 60.
Mm-hmm. C'est une chanson qui est beaucoup reprise dans des grands films.
Eh bien voilà, on va y venir. Tout à fait. Et l'indice que vous avez entendu tout à l'heure, peut-être, c'était un des indices. Alors, mais comme souvent, quand un titre a du succès, eh bien, il donne envie, hein, ce qu'on dit, à d'autres artistes de l'emprunter ou pour le réinterpréter. Et vous allez voir que cette chanson a bien vécu, puisque en cette même année 66, tous les charts s'affolent. En France, à l'été 66, c'est Sheila, hein, qui va interpréter le titre en français. Et elle va rafler la mise à Dalida, qui, elle, se consolera de cette même chanson. Mais en italien, je vous laisse écouter.
Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, bang bang. Io sparo a te, bang bang.
Enfin, bang bang, ça fait pareil en français.
Et donc, Olive, tu en parlais tout à l'heure, puisque toujours cette même année 66, eh bien Nancy Sinatra, hein, la fille du non moins célèbre Frank, sort sa version de cette chanson. Donc, elle comporte pour elle, du coup, des effets de guitare très mollo avec un chant mélancolique. Et cette version est restée moins connue que celle de Cher jusqu'à ce que son utilisation dans Kill Bill, hein, volume 1, lui offre une nouvelle notoriété. Je vous laisse écouter.
Bang, bang, I used to shoot you down.
Alors perso, moi c'est ma version préférée, hein, ouais, cette
version
là
en italien, là on l'entend aussi dans Les Amours Imaginaires de Dolan.
Ah, c'est possible que c'était repris, effectivement il y a beaucoup de choses. En 2014, alors on fait un grand saut, on retrouve respectivement Lady Gaga dans une version jazzy et David Guetta également avec Shiloh Gray qui se frotte aussi au tube planétaire, et du coup ça donne ça.
That awful smile, I used to shoot you.
Et là on arrive, David. Oui. Là c'est David.
Ah oui, c'est du guitar, ça, oui.
Effectivement.
Et puis pour finir, en 2017, hein, la petite jeunette Dua Lipa, elle aussi fait sa reprise. Ça donne ça.
You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down.
Alors comme vous l'avez vu, hein, cette chanson, enfin Bang Bang, moi j'adore, mais effectivement perso je préfère la version Nancy Sinatra. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez eu une petite préférence dans ce que vous avez pu écouter?
Italien, c'est pas mal.
Hein. Italien, Dalida, mais Dalida était
Dalida.
Belle. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle avait une voix chaude également.
Non, Bruel n'a pas repris, je vois qui fait non, Florian, non, je suis désolé, il a fait beaucoup de merde, mais pas celle-ci. J'ai dit quoi?
C'était gratuit, ça.
Ah, c'est gratuit. Oui. Ah, pardon, excuse-moi.
Non, mais attends. Il faut préciser. De Bruel, je n'aime que les chansons d'avant 2000, en général.
D'accord, ok.
Ouais, voilà.
Okay.
Les anciennes, donc toutes les récentes, j'aime pas.
Ok.
Eh bien voilà, c'était la petite histoire de Bang Bang.
Eh bien merci Sonia. Si vous nous rejoignez maintenant dans CMA, c'était mieux après, sachez que vous pouvez retrouver le début de l'émission sur le site radio-g.fr, même pendant la diffusion et bien sûr après quand vous voulez. Dans quelques minutes, on mangera de la guimauve avec Florian, mais à cet instant, c'est l'heure du Graal, où on répond à toutes vos questions les plus originales ou plus étonnantes. Et là, en toute simplicité, vous nous demandez ce qu'est le bonheur. Voici la réponse du Graal.
Question de Sylvie de Candé. C'est quand le bonheur?
Bon alors Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive? Un petit coup de mou? Mais bon, c'est ta question, alors relevons le défi. Sylvie, j'ai une bonne nouvelle. Si tu as un doute, je te rassure, le bonheur existe. Peut-être que tu le vis en ce moment en écoutant cette émission d'ailleurs. Si c'est le cas, c'est la fête dans ton cortex préfrontal gauche, c'est prouvé. Donc voilà, le bonheur est réel. Par contre, ton bonheur, c'est pas celui des autres. Il ne faut pas généraliser. Contrairement au plaisir, ton bonheur, c'est quelque chose que tu projettes dans l'avenir et c'est ton cerveau qui s'en sert pour t'automotiver à ne pas déprimer. Et si tu penses que l'argent, c'est le bonheur, eh bien toutes les études montrent que finalement, non. Du coup, tu peux me faire un virement quand tu veux. Donc, si je résume, le bonheur, c'est par définition toujours à venir, et en attendant, c'est de faire quelque chose de ta vie en t'entourant de personnes qui t'aiment.
C'était le Graal à retrouver sur Instagram, Facebook en recherchant Question Graal. Vous pouvez vous aussi y poser vos questions à l'écrit ou en vocal sur le site radio-g.fr, rubrique Contact. Allez, on vous l'a promis, c'est le moment tendre de l'émission. C'est à toi, Florian.
Fermez les yeux.
Oui.
Imaginez ce petit bonbon rose pâle, tendre, qui fond dans la bouche. Laissez-le envahir vos pensées et vos rêves.
Non, il n'y a rien de sexuel. Arrête, Caro.
C'est pas moi, c'est Olivier.
Savourez son irrésistible goût incomparable et inchangé depuis 50 ans.
Ah,
que le chamallow, c'est bon la vie.
Ça fait long dans la bouche, quand même.
Bon, on a tous fait cette expérience, au moins une fois, je pense, dans notre vie. Un chamallow... Ça passe, hein, c'est plutôt bon.
Ouais.
Le deuxième est encore meilleur que le premier. Le troisième, ça commence un peu à gonfler.
Ouais.
Et alors les autres, c'est très risqué. Comme toutes les bonnes choses, il faut y aller avec modération. Pas de blague là-dessus.
Non.
Très bien. Alors surtout quand on connaît leurs ingrédients. Alors qu'est-ce qu'il y a, à votre avis ? Il y a du sucre.
Du sucre. C'est chimique.
Et du sucre.
Du sucre.
Ouais.
Des blancs d'œufs et de la gélatine.
Ah.
Donc c'est tout simplement la recette actuelle de la guimauve. Le chamallow n'est autre que de la guimauve. Voilà.
Alors, le chamallow, c'est en anglais, c'est ça ?
Alors,
c'est
la même j'y viens. Il tire d'ailleurs son nom de la version francisée de marshmallow, qui signifie en anglais guimauve. Et donc c'est la marque des grands et des petits, je ne cite pas la marque, mais on la reconnaît,
oui.
Qui en 1971, donc il y a 50 ans, lance cette confiserie pour la première fois en France. Mais le marshmallow est bien plus ancien que 1971. Déjà en 1948, une version industrialisée est inventée par l'américain Alex Dumack et donc commercialisée aux USA. En fait, il met au point le procédé de l'extrusion, qui consiste en fait à faire passer la pâte de la guimauve ou tout autre liquide en fait dans un tube, et donc ça sort au bout du tube. Et on peut comme ça couper les bouts,
les petits cubes, d'accord.
Donc il invente ce procédé et il met de la pâte de guimauve à l'intérieur et la pâte sort en fait roulée ensuite dans la fécule et du sucre glace.
Mm-hmm.
Et ça donne le marshmallow. Mais la guimauve est encore plus ancienne que 1948, puisque déjà dans l'Antiquité on utilisait la racine de la guimauve. En fait, la guimauve c'est une plante à la base. Une plante européenne qu'on trouve un peu partout.
Mais
en Europe.
Il n'y a pas du tout de la plante dans les nouveaux.
C'est non.
Parce que tu as dit qu'il y avait
Non. À la base, donc la guimauve, c'est la plante. Ça s'appelle guimauve parce que on utilisait la plante en fait. Et en fait, on enrobait la racine de guimauve de miel, donc sous l'Antiquité, pour soigner les maux de gorge. Alors aujourd'hui, avec le sucre, les maux de gorge, ça soigne plus rien du tout.
On met du miel quand même.
On peut les manger avec du miel, du chocolat, ce que vous voulez. Donc ça c'est l'Antiquité, après il y a un grand vide complet sur la guimauve et sur le marshmallow. C'est vraiment au 19e siècle en fait qu'il y a un boom de la guimauve, c'est un peu la pastille Vichy de l'époque, puisque les confiseurs en fait utilisent donc la racine dont ils en extraient un liquide en fait qui a une propriété qui réagit avec l'eau et qui gonfle en fait un peu avec l'eau, comme une mousse un peu expansive, voilà.
D'accord.
Donc ils utilisent ça et ils ont l'idée d'y rajouter donc, du blanc d'œuf monté en neige, du sucre et de la gélatine. Ils parfument ça avec plusieurs parfums, mais notamment, et c'est ce qui fait fureur à l'époque, à base de rose. Et donc, c'est de la guimauve qui sent la rose.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est un peu la guimauve qu'on connaît aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus, effectivement, la plante de la guimauve, puisque maintenant, c'est plus que du sucre, des blancs d'œufs et puis de la gélatine, comme j'ai dit. Donc maintenant, il existe plein de couleurs différentes, mais à la base, la couleur d'origine, c'est blanc ou rose, en fait.
Oui, c'est encore souvent ça, en fait.
Alors, c'est souvent ça, mais maintenant, il y a des verts qui existent.
Ouais.
Au
bout de 40 ans, il y a commencé à y avoir des verts un peu, hein, je te le dis.
Les trois couleurs qu'on connaît aujourd'hui, c'est effectivement le blanc, le rose, le vert, plutôt des couleurs pastel.
D'accord.
Il n'y a rien de flashy, même si on pourrait faire n'importe quoi, puisqu'on met juste un colorant et ça passe. Alors, dans la littérature, en fait, on parle aussi de guimauve. Donc, vous avez le Marquis de Sade qui en parle. Vous avez Chateaubriand. Si, il demande à sa femme de, dans une lettre, de lui ramener des pains de guimauve. Okay. Donc c'était au 18e, ça déjà, donc avant. Chateaubriand, Alphonse Daudet en parle aussi, et Émile Zola, qui en parle aussi dans L'Assommoir. Puisque page 735,
comme il fait ça, sans cultiver, voilà, j'y crois pas.
Je cite, une boîte de guimauve, il s'interrompit pour prendre à poignée 5 ou 6 morceaux de pâte de guimauve. Il jetait dans sa bouche ouverte les morceaux les uns après les autres, comme quoi aujourd'hui on mange toujours ça pareil, on prend dans le paquet
c'est
et
ça. On
met tout
dans la bouche. On se gave.
Voilà, donc la guimauve est présente dans la littérature, mais aussi au cinéma. Et à votre avis, dans quel film assez emblématique, il y a la guimauve qui est quand même présente. En tout cas, on utilise
Titanic.
La guimauve. Tiens donc.
Ça gonfle avec l'eau.
Alors peut-être à un moment donné, mais non.
Oui, ça l'aurait peut-être aidé à pas couler.
Charlie, les chocolateries.
Non. Alors, peut-être effectivement dans l'usine, il y a peut-être un peu de guimauve. Mais en tout cas, il y a un film, il y a SOS Fantôme.
Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai, le marshmallow, le gros personnage.
Bibadom
Chamallow.
Donc il y a la marque, en fait, il y a une marque fictive de guimauve, ouais. Stay Puft. Ou Pouft, je sais pas comment on dit. Et donc la mascotte, c'est Monsieur Stay Pouft ou The Stay Pouft Marshmallow.
En français, Bibadom Chamallow.
Man, et en français, c'est Bibadom Chamallow, effectivement. Alors, pourquoi Bibadom Chamallow ?
Parce que Michelin,
et donc Bibadom. En fait, ça ressemble à Bibadom. Et en fait, le créateur de SOS Fantôme s'est inspiré du bonhomme Michelin.
D'accord.
Pour créer son bonhomme Marshmallow.
Ok.
Voilà.
Eh bien, très bien. Merci Florian.
Il y a souvent des films qui sentent la guimauve, on dit. C'est des films un peu
guimauve. Ah oui, qui sont un peu guimauve, qui sont tout doux. Ouais, c'est la douceur, effectivement, de la chose.
Enfin, c'est un peu écœurant, à force, quand même, la guimauve.
Ouais, effectivement. Ouais. Merci, Florian. Pour la chronique suivante, on rappelle que c'est pas gentil de parler, de plagier ses petits camarades. Heureusement, Franck Coty veille et débusque ses chansons dont le passé rattrape leurs interprètes indélicats.
Un plagiat, c'est tout simplement un vol. C'est dire qu'on a créé une chanson alors qu'en fait, la chanson ou un extrait appartient à quelqu'un d'autre. Mais chut, on a oublié de le dire. Un sample, c'est un extrait d'une chanson qui existe déjà, qu'on va copier, couper, coller pour recréer une nouvelle chanson. Mais un sample, s'il n'est pas déclaré, ça reste du vol. Certains me diront aussi, mais c'est pas un plagiat, c'est une inspiration, un hommage. Alors oui, il y a le droit de citation qui permet de reproduire un court extrait d'une œuvre sans avoir besoin de demander l'autorisation à l'auteur, à condition que ce dernier soit crédité. Et pas seulement cité, hein. Crédité veut dire qu'il apparaît dans la création de la nouvelle chanson auprès de la SACEM et qu'il touchera donc un pourcentage sur les redevances engendrées par les ventes. Et il ne suffit pas de citer l'auteur original dans une interview radio pour échapper à l'accusation du plagiat. On va parler un peu des samples. Déjà, quand est-ce que c'est arrivé ? Le sample a fait sa véritable première percée dans les années 70, avec le groupe The Sugar Hill Gang qui a samplé des extraits de Good Times de Chic pour leur tube Rapper's Delight. Ça, c'est Rapper's Delight. Et ça, c'est Good Times. Et il faut savoir que les compositeurs de Good Times ont porté plainte car ils n'étaient pas crédités sur la chanson. Et oui, sample, mais aussi plagiat. C'est la même chose dans les années 90 avec Vanilla Ice, critiqué pour son usage non autorisé d'un extrait de Under Pressure de Queen et David Bowie. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est Vanilla Ice. Alors il se serait défendu comme quoi il y a une note qui change dans le sample qu'il a utilisé. Mais pour éviter un procès, il aurait donné quelques petites pépettes à David Bowie et à Queen. Pire, en 1992, Bismarcky a carrément vu son album entier, I Need a Haircut, retiré des bacs pour avoir utilisé à tort un sample de All Again Naturally de Gilbert O'Sullivan. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est Bismarcky. D'après l'histoire, Bismarcky aurait demandé les droits d'utilisation du sample. Gilbert O'Sullivan aurait refusé. Et Bismarcky l'a fait quand même. Plainte déposée, tribunal, album retiré des bacs. Il a été jugé non pas pour atteinte aux droits d'auteur, mais pour crime de vol. On en est là. Un autre sample qui est très connu, très médiatisé et qui reste un plagiat, c'est celui utilisé par The Verve dans leur chanson Bittersweet Symphony. Oh, tout le monde connaît, c'est ça. Eh bien, il faut savoir que The Verve doit reverser l'intégralité de la chanson et de tout ce qu'elle rapporte aux ayants droit de Rolling Stone. Je vous dis à très bientôt, je vous kiffe les amis.
C'était Franck Cotty à retrouver sur sa chaîne YouTube éponyme. CMA est une émission de radio, mais c'est aussi un podcast qui s'appelle CMA+, disponible sur radio-g.fr, rubrique podcast+. Mais attention, seuls les chroniqueurs préférés des auditeurs ont l'honneur d'y figurer. Ainsi, on a déjà l'huître de Manu et le stylo de Sandra, mais quelle chronique de la précédente émission a été élue? Eh bien, on va le savoir juste après Bilal Hassani avec son titre Baby.
Baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. I know that you want to let me go, but if I go far away, you'll be begging on your knees, yeah. I want to avoid this kind of fight, I just want us to ignite the flame, but it's your job. Que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Alors regarde-moi et écoute-toi. Si tu veux de moi, je veux des promesses, ouais, des promesses. Mais si tu ne me dis pas, passion, alors parle maintenant. Oh, baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais, que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Tu m'aimes et tu le pensais. Hey, hey. Oh, baby. Baby. Oh, oh, baby. Baby, dis-moi que tu m'aimes et tu le pensais. Que la nuit tu ne peux pas m'oublier. Promets-le-moi, ne dis pas non. Oh, non, oh, oh. Ouais, baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver. Je peux voir dans tes yeux. Promets-le-moi, ne dis pas non, oh, non, oh. Alors regarde-moi et écoute-toi. Si tu veux de moi, je veux des promesses, ouais, des promesses. Mais si tu ne me dis pas ce que t'attends de moi, oh, oh, I leave the door open for you, baby.
C'était Bilal Hassani avec Baby dans CMA. Alors, qui a gagné sa place dans les podcasts plus de radio-g.fr? Eh bien, c'est la chronique de Sonia. Eh oui, ah, puisque, oui, oui. Avec l'histoire de Bella Ciao, ce chant devenu révolutionnaire, puis générique de la série La Casa des Papels.
D'ailleurs, c'est un peu la même histoire. Bang Bang, c'est un peu la même histoire que
c'est
Bella
vrai.
Ciao, quoi.
Ça
c'est
vrai. Repris...
C'est Bang Bang.
Bang Bang.
Oui,
c'est
bang.
Bravo, c'est pas Bang Bang, ça va.
En tout cas, tu as maintenant ton podcast plus. Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs de ce soir. Merci Florian.
Bah, merci à
merci
tout le
Caro.
Monde.
Merci.
Merci Mathias.
Merci, bonne
merci
soirée.
Merci Olivier.
Merci.
Merci Sonia.
À bientôt.
Puis on avait du public aussi. Merci Robin d'être passé. coucou. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, même endroit. D'ici là, vous aussi, soyez curieux de tout. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA. Yodelay, yodelay, hey, hey, yodelay.